Charles Bruch, dans son excellent commentaire intitulé « La clarté de l'Apocalypse », dit notamment à propos du verset 4 du chapitre 20, « Le règne de mille ans au millénium est caractérisé par une sobriété qui contraste vivement avec les développements et les déformations qu'on a fait subir à ce thème au cours des âges. Il est même surprenant de considérer le rôle immense que joue ce millénium et combien frêle en sont les étés bibliques. Tout dans notre texte apparaît énigmatique, voilé, allusif, pour ne pas dire confus. Jean aura eu ses raisons d'être aussi circonspect sur un motif qui débridait les fantaisies à son époque déjà. Nous serons bien inspirés de suivre sa consigne. Nous ne ferons pas de millénium un élément capital des derniers temps, d'autant moins qu'aucune référence explicite ne s'en trouve dans la Bible. Nous n'en renflouerons pas le texte volontairement concis à l'aide de citations bibliques tirées de partout et isolées de leur contexte, qui respectent la parole biblique en respectent aussi la discrétion et le silence. » Fin de citation. Le fil ayant servi à tisser la toile tout entière du millénarisme part précisément de ce verset 4, disant « Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. » De tout temps, les théoriciens ont ignoré le contexte du chapitre. En déterminant qui sont les « ils » en question, l'accent fut mis sur le fait que ce règne est matériel, qu'il aura Jérusalem pour capitale et que Christ y sera assis sur le trône de David, littéralement parlant. Les 1000 ans doivent évidemment être compris dans le sens littéral. Il est un secret pour personne qu'Apocalypse 20 est loin d'être facile à comprendre, à l'instar du livre tout entier d'ailleurs. C'est précisément pour cette raison que personne n'est en mesure d'adopter une attitude d'omniscience en ce qui le concerne. Cela n'empêche cependant pas certains grands esprits de discerner dans ce passage plus qu'il ne dit et de se lancer dans des spéculations où tout est objectif. Nous allons à partir de maintenant poursuivre deux buts. Montrer que les principes essentiels du millénarisme ne se trouvent nullement dans le fameux passage qui leur a donné naissance, et faire une très brève analyse du chapitre 20 et voir ensemble qu'il est compatible avec le contexte non seulement du livre de l'Apocalypse, mais de la Bible dans son ensemble. Le millénarisme trouve que ce passage enseigne le retour de Jésus sur terre, où il établira son royaume en régnant à Jérusalem sur le trône de David durant une période de 1000 ans. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Apocalypse 20 ne fait aucune mention du retour de Jésus, d'une résurrection corporelle, d'un règne terrestre, d'un trône au sens littéral, de Jérusalem ou de la Palestine, de nous, et enfin de Christ sur terre. N'est-il pas à la fois étrange et grotesque que quelqu'un puisse discerner ou découvrir tous ces principes dans un passage de la Bible qui n'en parle pas? La méthode la plus sûre pour étudier n'importe quel chapitre de la Bible et de le disposer dans ce qui constitue le décor du contexte général du livre dans lequel il se trouve. Ce livre s'adresse aux 7 églises d'Asie. Par suite de la situation très précaire de ces chrétiens au sein des païens et des persécuteurs, les vérités exprimées le sont dans un langage généralement hautement symbolique. Apocalypse chapitre 1 et verset 11 dit bien qu'il s'agit là d'une révélation de Jésus-Christ qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et nous voilà d'emblée dans le vif du sujet. Cette révélation va être faite à l'aide de signes et de symboles. Cette manière de présenter les choses sert à instruire ceux qui sont à même de les comprendre, tandis que cela demeure lettre morte pour ceux du dehors. Dans le cas contraire, les persécutions eussent été intensifiées contre l'Église. Jésus se dévoile en personne, se fait connaître à nous, qui avons peine à saisir son envergure. Sous aucun prétexte, nous n'avons à chercher quelqu'un d'autre, ni autre chose dans cet écrit. Toute l'œuvre concerne les choses que Jean a vues, qui sont, et celles qui doivent arriver. Et ici, un qualificatif intervient. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et cette précision nous fait comprendre combien il serait futile, douteux, dangereux même, de vouloir prolonger dans l'infini du temps les événements ou les circonstances décrites. Le dessein général du livre est de faire connaître connaître par le truchement du symbolisme les luttes et le triomphe de l'Église primitive face aux puissances persécutrices juives et romaines. Les tourmenteurs se présentent sous forme de bêtes à multiples têtes, cornes, orteils, queues. Les persécutions sont figurées par la famine, la pestilence ou un débordement de colère se répandant sur la terre sous forme de guerre et de désastre. Ces forces sont lâchées contre l'Église. Pourtant, ainsi à son comble, la longue lutte entre le Seigneur et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Dieu avait conservé pour lui une bonne souche de fidèles tout au long de l'Ancien Testament, malgré tout ce que le diable essayait de faire. De même, Christ, après avoir été tenté, sortait victorieux de ce combat. L'exercice de sa puissance sur le domaine de Satan vit ce dernier tomber du ciel comme un éclair. Les portails de l'enfer, avec ce que cela comportait de machination soigneusement préparée par les forces sataniques, ne pouvaient prévaloir contre l'édification spirituelle de l'Église qui triompherait, elle aussi, des pièges et des stratagèmes. La complexité du symbolisme n'empêche nullement d'apercevoir les encouragements pratiques qui nous sont destinés. L'esprit qui avait motivé les martyrs peut également nous stimuler. Et lorsque la vérité triomphe de tous nos ennemis, nous apprenons que l'épreuve de notre foi produit la patience. Tout cela nous rappelle une fois de plus que la justice triomphera toujours. Le millénarisme veut absolument que les 1000 ans d'Apocalypse 20 soient littéraux et fustigent sévèrement ceux qui oseraient spiritualiser la prophétie. Et cependant, il se voit contraint d'accepter les autres termes du passage comme étant figuratifs ou symboliques. L'ange, la clé, la chaîne, l'abîme sont de toute évidence des attributs représentant d'une façon figurative la puissance divine s'exerçant sur Satan et ses forces pour les réduire à sa merci. De même, les 1000 ans ne peuvent être compris que comme étant une figure de plénitude ou de perfection. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, sont à moi, dit Dieu. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, nous dit la Bible. Éternel, ne possède-t-il donc que des bêtes de montagne? 24 heures sont-elles littéralement 1000 ans pour lui et pas un de plus ou de moins? Et son amour n'est-il pas infini, sans limite? En Apocalypse 19 et 20, au moins 20 façons différentes de s'exprimer se côtoient. Pourquoi dès lors faire une exception pour les 1000 ans en les prenant d'une manière littérale tout en spiritualisant le reste? En Matthieu 12, 29, Jésus parle d'entrer dans la demeure de Satan et de le lier pour piller ses biens. Ceci est en rapport direct avec la faculté dont il dispose pour dominer Satan et chasser ses démons. Christ se trouve être la postérité de la femme venue pour écraser la tête du diable. Bien que Satan et qu'à un moment donné détenu la puissance de la mort, c'est Jésus qui possède maintenant les clés de la mort et de l'enfer. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'étonner de le voir lier le prince des ténèbres et ses forces durant un certain temps, afin de l'empêcher de persécuter l'Église naissante. La prédication de l'Évangile et l'obéissance des âmes à ses enseignements représentaient une influence ressentie d'une manière cuisante par les forces des ténèbres. Le Seigneur s'empare de Satan. À ce moment-là, tout comme il a mis fin aux persécutions juives et païennes. Mais que signifie « il faut qu'il soit délié pour un peu de temps » ? Selon toute évidence, les persécutions diminueraient pour y reprendre. Ce passage peut d'ailleurs se mettre en parallèle avec Apocalypse chapitre 17, versets 8 et 11, où la bête existe puis disparaît pour être cependant toujours présente. En Apocalypse 20, Satan est là, lié, puis relâché. Persécutions existent, cessent et réapparaissent. Cette vue des choses, bien que toute théorique, semble vouloir s'accorder avec le contexte du livre. Quelles étaient ces âmes sur des trônes qui vivaient et régnaient avec le Seigneur? Les âmes des martyrs. Jean dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ils étaient à l'honneur ainsi que ceux qui avaient partagé la première résurrection. En Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 11, se trouvent ces âmes sous l'autel, rejeté, sacrifié, faisant partie d'une cause apparemment perdue, et il crie, jusque-là, ton maître, garde-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang. ces visions des persécuteurs et des tourmentés vont se poursuivre jusqu'au chapitre 20, où là, on retrouve les armées en passé de dessous l'autel au trône. Les persécutions de Satan, accomplies par les forces du mal, ont cessé. Leur idéal a triomphé. Le sacrifice s'est transformé en victoire. La première résurrection pourrait être celle de leur cause, soit le règne avec Christ, qui se confond d'ailleurs jusqu'à un certain point. Jean l'appelle ainsi pour le différencier de la résurrection générale. Dieu avait dit de l'Israël captive à Babylone, « J'ouvre vos sépultures et vous vivrez. » Et encore aux prisonniers en général, « Que tes morts revivent. » D'aucuns insistent pour faire croire que cette première résurrection n'est autre que la nouvelle naissance, le baptême d'eau qui fait de nous de nouvelles créatures. Mais une fois de plus, c'est ignorer le contexte du livre. Ainsi d'ailleurs que le verset 4 identifie nettement les martyrs. Il dit que ce sont eux qui revinrent à la vie. Un savant dit un jour que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Le verset 5 dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Ceci montre que le passage ne traite pas d'une situation générale. La leçon à en tirer est bien le triomphe de l'Église sur les persécutions. Après avoir vu la certitude que Dieu ferait passer l'Église par ses épreuves, Jean ouvre une sorte de parenthèse pour montrer qu'au jugement final, les fidèles au Seigneur vont être guidés vers le ciel, où ils célébreront leur victoire à jamais, tandis que les mauvais seront perdus et envoyés dans un endroit préparé pour un châtiment éternel en compagnie de Satan et de ses anges. L'apôtre Jean n'était pas à même de voir au-delà des luttes de la furie des oppresseurs juifs et païens et de distinguer l'éclat du triomphe de l'Église du Christ, son épouse, libérée de ses liens en lançant au monde l'invitation au salut. L'Esprit et l'Église disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le millénarisme, le prémillénarisme, le post-millénarisme rend l'Apocalypse 24 effrayant à étudier, impossible à comprendre selon la logique pure. C'est dommage. Ce verset n'enseigne pas ce qu'ils avancent, pas plus qu'ailleurs. Si leurs théories ne peuvent se prouver par Apocalypse 20, aucune autre portion de la Bible ne le pourra. Et tel est le cas. Ceci clôture notre série d'entretiens sur un sujet qui ne pouvait être traité en surface. J'espère ne pas vous avoir lassé, mais au contraire éclairé sur cette doctrine.